Vous êtes bien sur Radio Orient, le journal François-Xavier de Calonne. Le premier tour des élections législatives en France, à 17h, le taux de participation était de 39,42%. Les magistrats ne décolèrent pas en Tunisie, ils reconduisent leur mouvement de grève d'une semaine, entamé lundi dernier après le limogeage de 57 d'entre eux. Nous y reviendrons avec Halima Jouini, membre de la direction de l'Association tunisienne des femmes démocrates. La deuxième série de pourparlers pour résoudre la crise politique au Soudan a été reportée, des discussions sous l'égide de l'ONU. Médecins sans frontières dénonce des traitements inhumains sur des migrants refoulés d'Algérie et de Libye. Sonia Mounir, référente santé mentale en Afrique de l'Ouest et centrale au sein de MSF, sera l'une de nos invitées. Rencontre hier soir entre le président palestinien et une délégation américaine menée par la secrétaire d'État adjointe pour le Moyen-Orient. Une rencontre à Ramallah en prévision d'une visite attendue dans la région du président américain. Les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 face à face Maroc-Libéria demain soir à 21h. Le premier tour des élections législatives en France, le taux de participation à 17h était de 39,42%, moins qu'à la même heure en 2017 où il s'élevait à 40,75%. Un scrutin un mois et demi après la réélection d'Emmanuel Macron à la tête de la République, plus de 48 millions de Français étaient ce dimanche appelés à renouveler la totalité de l'Assemblée nationale, soit 577 députés lors de ce scrutin à deux tours. Il y a 6293 candidats et le second tour aura lieu dimanche prochain. La grève des magistrats tunisiens entamée lundi dernier dans tous les tribunaux du pays sera reconduite demain pour une deuxième semaine. La coordination des structures judiciaires dénonce notamment la révocation de 57 juges par le président Kais Saied. Il les accuse de corruption. Le mouvement se traduit par la suspension de l'ensemble des séances et des services au sein des tribunaux, à l'exception de l'obtention des autorisations d'inhumation et de certaines affaires de terrorisme. Sur la situation en Tunisie et son évolution depuis le 25 juillet dernier, entretien avec Halima Jouini, membre de la direction de l'Association tunisienne des femmes démocrates. Elle soutient cette grève des magistrats.
Le Parlement d'avant le 25, la situation était tellement enviminée, il n'y avait pas d'issue. En plus, amplifiée par la crise sanitaire, les Tunisiens et les Tunisiennes étaient comme dans le chaos total, le nombre de morts augmentait, les gens voyaient que les parlementaires, avec cette violence au sein même du Parlement, étaient insupportables. Beaucoup de femmes, de toutes tendances confondues, subissaient aussi des violences verbales et des fois physiques et tout. Et donc, on a réagi, on voulait plus voir ces scènes de violence comme ça exposées à tout le peuple tunisien. Et c'était la crise, la grande crise. Plus qu'un an, on n'arrivait pas à avoir un gouvernement à cause des divergences politiques au sein même du Parlement, des violences, des scènes de violence incroyables. C'était tous ces facteurs-là. Et la crise sanitaire avec l'absence de vaccin et le nombre de morts qui augmentait, ça dépassait les 25 000 défunts. Et donc voilà, c'était la veille du 25 juillet. Donc les mesures arrêtées à ce moment-là, ces scènes de violence, tout le monde était un peu réjoui. Pour mettre fin à cette violence, le Parlement n'était qu'une scène de violence continue. Voilà.
Justement, vous rappelez le contexte dans lequel ces mesures d'exception ont été prises par le président de la République. Et cela a représenté, vous le dites au début, un espoir pour vous et notamment pour l'Association tunisienne des femmes démocrates.
En tant qu'association, on a beaucoup discuté. Il y avait des divergences, des lectures différentes, mais quand même, on a dit, on pousse pour que ces mesures soient une occasion pour bâtir quelque chose justement de participatif et de trouver quand même une issue à cette crise politique qui n'en finit pas. Et donc on voulait que ça soit limité dans le temps, qu'il y ait une feuille de route claire, que toutes les forces de la société civile et les forces démocratiques et tout participent. Il y avait quand même beaucoup d'idées et les gens, quand même, plusieurs associations, toutes les composantes de la société civile, y compris le syndicat l'UGTT, notre association, la Ligue des droits de l'homme. Donc au début, reçu par le président de la République, le 26 juillet, on a exprimé cette attente-là. Malheureusement, avec l'évolution des choses, on ne voyait pas venir cet agenda limité dans le temps avec des mesures claires et une volonté de faire participer tout le monde, y compris la société civile qui était comme un garde-fou.
Justement, donc, plus de 10 mois après la mise en place de ces mesures d'exception, comment évaluez-vous la situation ?
La situation, justement, ne s'est pas améliorée. Au contraire, de plus en plus, on voyait quand même que le président de la République allait vers l'avant tout seul, avec des décrets-lois pratiquement successifs et qui renforçaient son monopole de toutes les sphères de pouvoir, à savoir le pouvoir exécutif. Il présidait même des réunions de gouvernement. C'était sous sa tutelle, même s'il y avait une chef de gouvernement, mais elle n'avait aucun rôle pratiquement. C'est lui qui décidait de tout. Mais en même temps, soi-disant, il allait combattre la corruption. Il commençait à destituer les gouverneurs et attaquer le conseil de la magistrature, parce que ce conseil était acquis au parti NADA. Il a même nommé un autre conseil. Et même ce conseil, il n'a pas de rôle à jouer. La preuve, il a fini par lui-même destituer 57 magistrats. Et je crois que c'est une grande faute. Et surtout, sans leur donner le droit à un recours quelconque. Et ça, c'est une honte. C'est une grande atteinte, aussi bien à l'indépendance de la magistrature, mais aussi c'est une atteinte au droit de tout citoyen. Un jugement équitable, justement, le droit de se défendre. Et ce qui est quand même un peu, en tant que féministe, là on l'a dénoncé parce qu'il y a eu quand même une campagne de lynchage contre 3 femmes magistrates accusé d'adultère. D'ailleurs, entre guillemets, je mets adultère et je ne sais pas si ce crime-là pourrait porter atteinte à l'ensemble, comme une corruption ou bien comme les autres accusations contre leurs collègues hommes. Ces femmes-là, c'est pour des causes soi-disant morales. Et c'était une grande humiliation, on l'a vécu comme une grande humiliation à toutes les femmes tunisiennes.
Concernant la grève des magistrats, c'est un mouvement que vous soutenez au sein de l'Association tunisienne des femmes démocrates ?
On le soutient, oui. On est pour l'indépendance de la magistrature. On ne peut pas bâtir justement une vraie démocratie sans l'indépendance. On peut justement lutter contre la corruption, mais pas avec des méthodes hors la loi. Ça porte atteinte à tous les béabas du droit humain.
Halima Jouini, membre de la direction de l'Association tunisienne des femmes démocrates. Rencontre hier soir entre le président palestinien Mahmoud Abbas et une délégation américaine menée par la secrétaire d'État adjointe pour le Moyen-Orient. Une rencontre à Ramallah en prévision d'une visite attendue dans la région du président américain Joe Biden. Mahmoud Abbas a renouvelé sa demande de retirer l'organisation de libération de la Palestine de la liste américaine des entités terroristes et de rouvrir le bureau de l'OLP à Washington et le consulat américain pour les Palestiniens à Jérusalem. La deuxième série de pourparlers pour tenter de résoudre la crise politique au Soudan a été reportée. Des discussions sous l'égide de l'ONU, report après la défection d'un important bloc civil. Les Nations Unies, l'Union africaine et l'organisation régionale est-africaine IGAD avaient lancé mercredi un dialogue pour tenter de mettre un terme à l'impasse politique dans le pays. Cela depuis le coup d'État en octobre dernier mené par le chef de l'armée, le général Abdel Fattah al-Burhan. Ce cri d'alarme de Médecins sans frontières. L'ONG fait état de 14 196 personnes migrantes refoulées d'Algérie et abandonnées en plein désert à la frontière algéro-nigérienne entre janvier et mai dernier. MSF déplore des maltraitances. Sonia Mounir, référente santé mentale en Afrique de l'Ouest et centrale au sein de Médecins sans frontières.
Les conditions étaient déplorables, honnêtement, dans le sens que ces gens sont souvent embarqués de l'Algérie vers les frontières nigériennes dans des camions à ciel ouvert. Un nombre assez élevé, on peut trouver des convois avec 200, 300 dans le même camion, sous le soleil, chaleur, qui n'ont pas accès à l'eau potable ou un accès très réduit à l'eau potable, avec un manque de la nourriture, avec aussi pas mal de violences, surtout des violences physiques que nous avons constatées lors des consultations quand les migrants, quand ils arrivent aux structures sanitaires que nous appuyons, avec pas mal de blessures, certains avec quelques fractures, des problèmes cutanés, des déshydratations dû au manque d'accès à l'eau, du manque de la nourriture, donc des gens qui sont assez affamés, avec aussi de la maltraitance psychologique, de la violence psychologique, tout ce qui est insultes, injures, des menaces. On reçoit des personnes avec des cas de violence sexuelle.
Et ces violences physiques et psychologiques que vous mentionnez, où se déroulent-elles ?
Soit dans les endroits où ils ont été emprisonnés, on va dire, où ils ont été captivés, arrêtés avant la déportation, mais aussi sur le trajet qu'ils sont en train d'effectuer du point où ils étaient arrêtés jusqu'à les frontières. Donc c'est souvent affecté par la police, la gendarmerie, les gardiens, on va dire en général, algériens et aussi libyens, pour les autres migrants qui entrent de la côté de la Libye, qui ont été refoulés de la côté de la Libye vers le Niger aussi.
Et vous mettez l'accent notamment sur les violences psychologiques, sur l'impact, sur la santé mentale.
Vous savez, on dit toujours que les violences physiques, ça prend du temps et ça guérit, mais la violence psychologique, ça prend plus de temps, ça prend plus d'ampleur et ça peut rester pour une très longue période de vie et même toute la vie sans se guérir. On reçoit des gens qui sont physiquement fatigués, mais après quelques périodes de temps, de repos, d'un accompagnement médical structuré et fourni, comme ce que nous sommes en train de faire, ils peuvent récupérer physiquement. Mais psychologiquement, ça prend tellement longtemps, ça prend du temps, ça prend de l'énergie. On voit des gens avec tout ce qui est peur, tristesse, deuil, angoisse, troubles de mémoire, il oublie qu'est-ce qui s'est passé, ou il nous donne même des récits un peu mélangés parce que leur mémoire est confus, des problèmes de sommeil, ils n'arrivent pas à dormir, ils ne peuvent même pas dormir parce que chaque fois qu'ils ferment les yeux, ils revivent ce qu'ils ont vécu tout au long de ce trajet, sous forme de cauchemars, sous forme de souvenirs intrusifs. On le voit, il instrumentalise l'agressivité qui est le transfert de ce qu'ils ont vécu avec les gardes policiers, tous les sévices des gardes policiers qu'ils ont subis. Il le retransfère vers les autres migrants de temps en temps. Les plaintes somatiques, le mal du corps, le céphalée, tout ça mélange culpabilité, honte, un état de désespoir total, parce qu'ils te disent ma vie est perdue, j'ai perdu tout. En partant à la migration pour franchir le Méditerranée pour une vie meilleure, maintenant je suis là, j'ai perdu tout ce que j'ai gagné. En Algérie, j'en ai rien, et maintenant aussi, c'est pas seulement que j'en ai rien, mais en plus, j'ai des problèmes psychologiques qui vont vivre avec moi jusqu'à X temps.
Et ces personnes refoulées d'Algérie, d'où viennent-elles? Quelles sont leurs nationalités? C'est varié, bien entendu.
Bien sûr, on a un peu toute l'Afrique subsaharienne. Donc on a des Nigériens de Niger, de Nigeria, on a des Togolais, des Burkinabés, des Maliens, des Guinéens, des Centrafricains. On a eu même des cas de Tchadiens et des Soudanais qui ont été refoulés aussi par les autorités algériennes. Donc on a presque une multitude de nationalités en fait.
Et comment vous les prenez en charge, vous, au sein de Médecins Sans Frontières, quand vous les voyez arriver? Et comment, eux, ont-ils accès à vous?
Ils sont largués au point zéro au niveau d'Assamaka. C'est un petit village frontière entre l'Algérie et le Niger. Normalement, ils arrivent à pied. Donc, dès qu'ils arrivent, on a une structure sanitaire où nous appuyons là-bas. On offre un service de prise en charge médicale complet, gratuite, bien sûr. On fait tous les examens médicaux nécessaires, on soigne les blessures, les fractures, des médicaments pour les autres problèmes médicaux. Si on a besoin des cas pour des interventions plus poussées, comme des interventions chirurgicales ou plus élaborées, on fait le transfert et on garantit le transfert vers d'autres structures sanitaires de deuxième niveau pour tout ce qui est partie médicale. On a aussi la partie de prise en charge psychologique et psychosociale qui est dans ce point zéro, donc on offre de l'écoute, de pour entendre, comprendre les plaintes, leurs souffrances, on fait des séances individuelles et groupales, on essaie d'accompagner surtout les enfants mineurs, parce qu'on reçoit pas fréquemment, mais on a reçu pas mal des fois des enfants mineurs, donc on essaye de d'offrir aussi de la protection, d'avoir le mécanisme qui existe pour les orienter vers d'autres structures ou d'autres organisations qui peuvent les aider, les appuyer, chose qui est un peu rare dans ce structure, dans ce contexte-là. On essaie de renforcer la confiance, l'estime de soi, parce que comme je vous avais dit au début, ces gens ont subi tellement de sévices, ils ont été traités d'une manière très inhumaine, donc au final, ils ont ces doutes sur qu'est-ce que nous sommes, est-ce que nous sommes des humains ou pas, donc on essaie de les renconforter, les appuyer, les donner de l'espoir, la capacité de s'exprimer, de partager et de normaliser toutes ces réactions qui sont en train de passer, parce que c'est une période réfractaire et on travaille avec eux pour se calmer et essayer de s'organiser pour pouvoir savoir qu'est-ce qu'ils peuvent faire l'étape suivante pour récupérer plus ou moins leur vie. Aussi, on a des activités de sauvetage, de rétissage des migrants, parce que, comme je vous avais dit, ils sont largués un peu loin des frontières, surtout la nuit, donc les gens perdent souvent leur chemin, leur trajet, ils savent pas comment arriver. Donc les autres migrants, ils peuvent nous informer qu'ils ont de certains amis qui ont parti à gauche, à droite. Donc on essaie d'organiser ça avec nos équipes pour récupérer ceux qui sont un peu perdus dans cette déserte.
Sonia Mounir, référente santé mentale en Afrique de l'Ouest et centrale au sein de Médecins sans frontières. L'ex-président d'Algérie Ferriz est en détention provisoire. Il est poursuivi dans le cadre d'une enquête pour corruption. Kamel Issad et son chef d'escale à Alger, Kamal Idalia, avaient été limogés le 2 juin dernier sur ordre du président algérien. Au moins 27 personnes sont mortes en Irak de la fièvre du Congo depuis le début de l'année. Les autorités tentent de freiner la propagation de cette maladie transmise par le bétail. Les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2023, deuxième journée de la phase des poules. Demain dans le groupe K, face à face Maroc-Libéria, coup d'envoi à 21h ce lundi soir, 21h heure de Paris. Fin de cette édition, vous êtes bien sûr Radio Orient. Un très grand merci pour votre fidélité et très bonne suite de programme à l'écoute de Radio Orient.